Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Contre la réforme des retraites, hier, 500 000 manifestants ont défilé selon la CGT, 150 000 selon le ministère de l'Intérieur, un peu partout en France. À Paris, le cabinet indépendant Occurrence a compté 23 000 personnes. Antoine Geoffin était dans le cortège.
Force et travailleurs, c'est la grève.
Marc défile avec sa caisse de soutien aux grévistes à la main. 23 ans qu'il est à la RATP, 39 jours qu'il fait grève. Ce conducteur de métro continue, même si c'est dur.
On a eu notre 13e mois, donc moi je l'ai mis de côté intégralement. On vit avec très peu d'argent. On fait ça pour nous, pour nos enfants. On ne veut pas leur laisser un pays aujourd'hui où les enfants vont bosser jusqu'à 64 ans.
Marc veut maintenir la pression sur la RATP.
Un mois de grève leur coûte 170 millions d'euros à rembourser en place Navigo. Et ben le mois prochain, ce sera la même chose. Et on continuera. On fait une grève totale. Sinon, ça ne sert à rien. Grève tournante à SNCF, ça ne donne rien du tout.
La foule ne dit pas le contraire. Cortège bigarré, gilets jaunes, verts de la RATP, rouge pour la CGT, robe noire, les avocats, mais aussi des enseignants. Clara, par exemple, glisse 10 euros dans l'urne de Willy, cheminot en grève depuis le 5 décembre.
Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci de votre soutien. Merci. Si je tiens encore plus, ça sera grâce à vous.
Ah ouais, c'est super important. Moi, je suis prof. Donc j'ai fait quelques jours de grève, je crois que je suis à 8, mais on a besoin de la RATP et des cheminots, quoi. Faut qu'ils tiennent.
Nathalie et Séverine, institutrices, débrayent quand elles le peuvent depuis décembre. Elles ne s'inquiètent pas pour la suite du mouvement.
Regardez le nombre d'enseignants et de gens, même d'autres métiers, qui sont sur les piquets de grève de la RATP, qui sont dans les AG des cheminots. Elle est déjà là, la convergence. Les avocats dans des manifs, ça faisait très très longtemps quand même qu'on n'en avait pas vu. Voilà.
On amplifie, ça va mieux, il y a de plus en plus de monde qui va venir et donc on va gagner. On est là pour ça, grève générale, tous ensemble.
On a eu Juppé en 95, on aura Macron en 2020.
Retraite par points, de non-retour lance une pancarte. Pas sûr donc qu'un retrait provisoire de l'âge pivot fasse reculer les manifestants.
Reportage signé Antoine Geoffin pour France Culture. La lettre d'Edouard Philippe au syndicat est arrivée en fin d'après-midi hier et propose un retrait provisoire de l'âge pivot. Cette mesure dite d'économie qui devait inciter les Français à partir à 64 ans sous peine de se voir infliger une pension plus faible. Ce retrait est une victoire mais qui comporte une part de risque, déclare ce matin le numéro 1 de la CFDT. Il faut passer aux travaux pratiques, estime Laurent Berger dans une interview au journal du dimanche. Isabelle Chailloux.
La CFDT et l'UNSA se félicitent d'avoir obtenu le retrait de l'âge pivot. Mais la main tendue de Matignon est un retrait sous condition. D'abord parce que les partenaires sociaux doivent maintenant s'entendre sur les moyens de trouver les 12 milliards nécessaires à l'équilibre financier du système de retraite d'ici 2027. Faute d'accord entre eux, c'est le gouvernement qui reprendra la main. Or, la marge de manœuvre qui est laissée au patronat et aux syndicats est étroite. Sur le fond, pas question de toucher ni au niveau des pensions ni aux cotisations, a prévenu le Premier ministre. Et les délais sont courts. Édouard Philippe attend des propositions fin avril. Si toutes ces conditions sont remplies, l'âge pivot sera donc bel et bien retiré. En tout cas, celui qui devait commencer à entrer en vigueur pour les départs en retraite à partir de 2022, donc dans l'actuel système. En revanche, le Premier ministre le dit clairement dans son courrier, dans le futur régime universel à points, il y aura bel et bien un âge d'équilibre. Il sera même, dit-il, un des leviers de ce système.
Un cessez-le-feu en Libye annoncé hier soir par l'homme fort du pays dans l'Est, le maréchal Haftar. Après plusieurs mois de combats pour prendre le contrôle de la capitale Tripoli, cessez-le-feu accepté ce matin par le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. En Irlande du Nord, l'Assemblée s'est réunie pour la première fois depuis 3 ans. La chef du principal parti unioniste, Arlene Foster, a repris le poste de Premier ministre, secondé par son homologue du Sinn Féin, Michelle O'Neill. Parmi la population, soulagement et scepticisme dominent. À Belfast, le reportage d'Emeline Vin.
Le palais de Stormont trône au milieu d'un vaste parc. Depuis 3 ans, Jonathan profite du calme pour y promener ses chiens.
Je suis content qu'ils se soient entendus. Ça fait 3 ans, il était plus que temps. Espérons qu'ils vont résoudre certains problèmes qui ont été négligés parce que ça fait 3 ans que plus personne ne prend aucune décision.
Tout le monde ne partage pas son enthousiasme. Au pied des marches qui mènent au palais, Ray, drapeau britannique à la main, contemple l'assemblée avec mépris.
C'est un palais de traîtres. Le DUP nous a vendus aux terroristes républicains irlandais. D'un point de vue loyaliste, protestant ou unioniste, ils ont fait des compromis sur tout.
Le parti unioniste a accepté de reconnaître la langue irlandaise, une ligne rouge, jusqu'ici. À l'intérieur du palais, Pat McCullen suit les allées et venues des députés. C'est la secrétaire du principal syndicat hospitalier qui mène une grève depuis plusieurs mois pour réclamer plus de moyens.
De manière assez cynique, nous sommes conscients que le gouvernement britannique a instrumentalisé notre grève pour mettre la pression sur les politiciens d'ici. Nos services publics ont été désespérément négligés. Maintenant, il y a beaucoup à réparer.
Pressés de se mettre au travail, les députés s'engouffrent dans la chambre. Au menu des premiers travaux, les services publics, justement, et le fonctionnement de la vie politique.
Reportage signé Emeline Vin. À Taïwan, la présidente sortante Tsai Ing-wen, pro-démocratie, décroche un deuxième mandat de 4 ans. Bête noire du régime de Pékin, elle reste ferme vis-à-vis de la Chine. Les précisions de Dominique André à Taïwan pour France Culture.
C'est un triomphe, clame le Taipei Times, le quotidien anglophone proche du PDP, le Parti démocratique progressiste de Tsai Ing-wen. Madame Tsai, 63 ans, remporte plus de 57% des voix face à son adversaire du Kuomintang. Son parti garde la majorité au Parlement avec 61 des 113 sièges. Tsai Ing-wen a envoyé ce message à Taïwan hier soir.
Le résultat de cette élection est la voix du peuple taïwanais, ainsi que la voix de la démocratie. Le monde entier nous a entendus. Je suis sûre que l'autre rive aussi nous a entendus.
C'est un camouflet à l'influence grandissante de la Chine dans la région, analyse Jacques Durot, l'un des anciens responsables de l'Institut Ricci de Taipei.
La politique de Xi Jinping, en maire de Chine, et les derniers événements de Hong Kong n'ont rien arrangé. Il y a une partie des Taïwanais qui peuvent penser qu'il vaut mieux ne pas prendre l'animal à rebrousse-poil, mais il y a aussi une autre partie qui a envie de s'affirmer et de s'affirmer politiquement. Voilà, nous existons.
Dans un communiqué très court, Pékin indique s'opposer à toute forme d'indépendance de Taïwan.
Dominique André. La météo, des averses sur un large quart nord-ouest du pays, du soleil sur l'Auvergne et les bords de la Méditerranée. Les températures sont comprises entre -2 et 11 degrés, -2 à Chambéry, 6 à Paris, 9 à Cannes, jusqu'à 11 degrés à Saint-Malo.